Bonsoir et déjà, on va démarrer par du... On va se mettre dedans, si j'ose dire. Les décisions prises à la suite d'une lecture sont souvent les meilleures. Ce matin, en relisant l'état Aumara, j'ai eu la nostalgie d'un passé que je ne connaissais pas. Une mélancolie de la magie antique que les hommes d'ici ont oubliée. Il y a des mondes auxquels il faut se soustraire. Une mélancolie de la magie antique, je viens de le dire, pardonnez-moi. Voilà l'arithmétique à laquelle je suis arrivé. On tente désespérément de saisir les choses, de sonder le gouffre, de décoder un problème qui ne demande aucune solution. Et un jour, un auteur vient à notre rencontre. Dans une forêt obscure ou dans un salon faiblement éclairé, c'est selon, et nous invite à le suivre. C'est le début du voyage. Bonsoir Félix Majerès. Alors ce voyage, votre voyage, on va le faire avec vous. On va vous accompagner au Mexique, dans les pas d'Antonin Artaud. Mais avant que nous commencions à parler de votre livre, je voudrais juste dire quelques mots pour vous présenter. Et puis bien évidemment, vous m'interrompez tout de suite si je dis des bêtises. Vous êtes écrivain, poète, photographe, plasticien, journaliste. Éditeur aussi, une maison d'édition qui s'appelle Sous-X, S-O-U-Z-I-C-Q-S. Vous avez 31 ans, vous êtes né à Montpellier, mais vous avez grandi à La Réunion, vous êtes arrivé à l'âge de 3 ans, en famille, et là-bas, tous oreilles que vous étiez, vous avez appris à parler créole. J'aimerais bien d'ailleurs, j'espère que nous reviendrons... dans notre conversation sur votre enfance, sur votre adolescence dans l'île. Après le bac, vous êtes parti aux USA en Californie. Vous y avez appris le journalisme et puis l'écriture du cinéma. Et maintenant, vous vivez à Paris. Vous avez collaboré à Vice, à Technic Art. Vous avez publié des livres d'art, ou est-ce qu'on peut dire plutôt des livres d'artistes. Dans un de ses livres d'art ou d'artiste, qui s'appelle Trinity, c'est une série de trois, vous dépliez des doubles pages de photos prises à Patmos, des photos, des images modifiées, profondément modifiées d'ailleurs, dont le but est d'ouvrir à celui qui les regarde un espèce de rêve, un espèce de vision, comme dans l'Apocalypse de Jean. Voilà, on reviendra, j'espère, aussi sur ses livres d'art et d'artistes. Avant le Mexique, avant les Tarahumara, vous avez voyagé au Pérou, au Chili. Alors c'est un peu facile, mais pardonnez-moi à vous surtout d'ailleurs, mais j'irai volontiers que vous êtes quelqu'un au sommet de vous. Voilà. Alors, entrons dans le lourd, si vous voulez. Déjà, d'où vous vient cette proximité avec Artaud? Comment l'avez-vous découvert? Car je crois qu'en plus de son voyage au pays des Tarahumara, publié en 1945, vous vous référez aussi, vous, à la traduction, adaptation très très personnelle qu'Artaud a fait du Moine de Matthew Gregory Lewis, ce livre du 18e, il faudrait mettre des guillemets gothiques, on va dire, ce livre même très gothique, entre guillemets, très très subversif, qu'adorait, paraît-il, le marquis de Sade, une histoire de pacte épouvantable avec le diable, de péché, de débauche, voilà, avec de cruauté, énormément, avec ce moine Ambrosio. Alors, voilà, d'où vous vient cette proximité avec Artaud et ses livres?
Alors, pour être exact, ce qui s'était passé, bon, je le dis généralement pas, mais j'écoutais beaucoup les Doors et j'ai appris que Jim Morrison piochait énormément dans une référence qui était Antonin Artaud. Donc quand j'avais 16 ans, je me suis dit, qui est cet Antonin Artaud? J'ai envie d'arriver au principe du chanteur que j'aime bien. Et finalement, j'aime plus les Doors aujourd'hui, Artaud reste une figure très importante. Et donc j'ai commencé petit à petit à lire ses livres, Les Tarahumara, sur Van Gogh, Le Moine, Le Théâtre de la Cruauté, Théâtre sans double, etc. Et en fait, il m'a pas lâché et j'avais l'impression que c'était une espèce de liberté contrôlée. Et dans chaque texte, que ce soit des essais, que ce soit des romans, que ce soit des pièces de théâtre, ou même ses apparitions au cinéma, dans Jeanne d'Arc ou dans Napoléon Gans, par exemple, il y avait le visage, il y avait le verbe, etc. Et donc pour moi, il y avait tout. Il représentait cette espèce d'artiste total. Qui m'a toujours fasciné et qui, dans chacune de ces. Dans chacun de ses arts, finalement, mettait 100% de son être. Et je me demandais comment quelqu'un pouvait faire ça. Enfin, pour moi, ça m'impressionnait que quelqu'un puisse écrire sur le théâtre, écrire du théâtre, jouer dans des pièces de théâtre. Écrire des romans, etc. Et à chaque fois, avec déjà une sincérité, mais bon, à la limite, quand on écrit quelque chose, il y a forcément de la sincérité, mais aussi avec une profondeur que j'ai jamais vue ailleurs. Le mouvement surréaliste, moi, m'a toujours un peu emmerdé, mais Artaud, qui faisait partie de ce mouvement avant de se faire virer ou avant de lui claquer la porte, pour moi, il y avait quelque chose que lui avait compris, que les autres n'avaient pas compris, que certains voulaient faire transparaître, voulaient jouer en fait le rôle de la personne folle et quelqu'un qui essayait de se sortir de sa folie par l'écriture et par la poésie. Et donc pour moi, c'était quelqu'un qui était un aboutissement de Rimbaud en passant par le conte de Lautréamont. Et puis, avec cette figure là-dessus, sur la couverture, il y a un peu ça, mais il y a quelque chose de biblique. Ça, c'est sur Jeanne d'Arc. Et donc, il a toujours, les Darumaras, par exemple, sont pleines de références catholiques. Et donc pour moi, il y avait tout. Il y avait le péché, mais la rédemption. Il y avait la noirceur et en même temps l'humanité même, etc. Et donc, il représentait en tant qu'être tout ce que artiste devait représenter. Et ça, depuis très jeune. Et puis après, quand on a 16, 18 ans, on peut peu à peu divaguer sur des références qu'on avait. Et puis lui n'a jamais, a toujours été très proche de moi, finalement. Et donc, il était naturel que la première chose que moi je sorte vraiment, qui m'ait pris beaucoup de temps, soit quelque chose sur lui et sur une relation entre moi et lui, entre le temps, lui et moi, et avec les personnes que lui il est allé chercher et que j'essaye de chercher également.
Est-ce qu'on peut dire que vous vous êtes reconnu dans Artaud très tôt ou vous l'avez reconnu?
Je me suis reconnu, je me suis identifié plus. Forcément, si on s'identifie à quelqu'un, soit on essaye de le devenir, donc c'est une espèce d'exemple, soit on se dit que cette personne sera vers quoi l'objet devrait tendre, en tout cas, ou l'être devrait tendre. Et puis donc, c'était une espèce de porte qui s'ouvrait en me disant, voilà, cette personne a compté pour moi, je vais en raconter un peu plus.
Vous écrivez dans le livre, à un moment donné, vous le nommez mon guide. Mon guide, c'est-à-dire qu'il a été votre guide très tôt, parce que finalement, quand vous dites 16-18 ans, je veux dire, vous en avez 31, donc c'est pas si loin que ça. Quand on regarde un tout petit peu en arrière, ça montre, si vous voulez, une fascination très, très, très hâtive, une maturité en même temps. Ce que vous faites aussi, vous disiez il n'y a pas longtemps, parler de Lautréamont, on est un peu finalement dans la même sphère, dans le même ensemble. Ça paraît presque curieux, j'allais dire aujourd'hui, que tout ça vous ait saisi aussitôt. Vous raconteriez ça, j'ose dire, et vous auriez 50 ans, on le comprendrait davantage par rapport à l'éducation, mais qu'est-ce qui vous a fait vous y mettre à ce point-là si tôt, vous savez?
Non, j'ai aucune idée.
Qui vous a mis?
Peut-être l'ennui, en fait, finalement, c'est plus ça. Quand on est jeune, bon, il y a l'ennui, et puis après, au début, il y a l'apparence, et puis quand j'étais jeune et qu'on lisait, quand quand on me disait, voilà, moi je lis ça, moi je lis ça, pour moi c'était important de dire non, je lis Artaud, et donc il y avait forcément quelque chose de... Je voulais projeter quelque chose. Donc ça, forcément, c'est pas la face la plus belle. Mais en tout cas, pourquoi eux, l'ennui, la chance aussi, le hasard, pourquoi j'ai lu dans un article que Artaud était la personne que Jim Morrison aimait, que moi, à l'époque j'écoutais les Doors, pourquoi j'ai lu des textes d'Artaud sur l'autre âme, qui m'ont ramené à l'autre âme, pourquoi Artaud m'a fait découvrir Van Gogh aussi à cette époque, etc. Finalement, dès qu'on prend un auteur, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'il y a toujours des citations, il y a toujours des filiations, et donc on prend un auteur qui pour nous compte, et puis on va s'intéresser à soit qu'il a formé, ou soit qui lui a formé, ou les interprétations qu'il a faites de telle œuvre picturale, etc. Et donc on se crée un monde. Mmh. Et puis dans ce monde-là, on tourne, une espèce de spirale, plutôt on monte. Et puis à un moment, on tombe sur un autre auteur qui va nous en faire découvrir d'autres, etc. Et donc je pense que l'ennui et ce besoin d'ennui m'ont fait le découvrir. Et vous parliez de guide. Si je parle de guide, précisément là-dessus, bien sûr que pour moi, il a compté. Mais pour moi, c'était ce livre-là, et c'est pour ça qu'il est construit en partie. Pour moi, c'était l'enfer contemporain, la première partie à Paris, l'intermédiaire qui est le purgatoire, et les Tarumaras, qui est ce paradis perdu. Et donc, il y avait une référence à Dante, j'ai utilisé en gros Artaud comme Virgile, et c'est pour ça qu'au début, dans les phrases que vous avez lues, je dis qu'on peut rencontrer un auteur dans une bibliothèque, ou dans un salon mal éclairé, ou dans une forêt obscure. Mmh. C'est la phrase de Dante, au départ, quand il rencontre Virgile, et pour moi, c'était la même chose. Cette rencontre avec Artaud, me faisait sortir de cette espèce d'enfer contemporain, finalement, pour aller quelque part. Qu'on pouvait sortir aujourd'hui, Dante le racontait, Virgile était pour lui le symbole de la poésie pure, et qu'en 2017, cette poésie pouvait toujours faire sortir les gens de leur propre enfer.
Alors, je voudrais qu'on tente le coup tout de suite à quelque chose, parce que ce livre, il n'y a rien à écrire, si vous voulez, sur la couverture. Il n'y a pas grand-chose d'écrit à l'intérieur, mais sur la quatrième, votre éditeur a mis Au pays des rêves noirs et son premier roman. C'est assez lourd de sens d'écrire un roman et en même temps de le cacher un peu. Et pourtant, lorsqu'on vous lit, on a l'impression qu'il s'agit d'un récit. Après, on pourra le qualifier comme on veut, ce récit initiatique, tout ce qu'on voudra. Mais ce n'est pas un roman. Pourquoi ?
Ça, je ne sais rien. C'est pas moi qu'il faut le demander. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des journées... Bon, bien sûr que tout est vrai, mais pas forcément réel. Quoi. Mais en gros, parfois, il y a des journées qui sont dédoublées. Parfois, il y a des journées où il ne s'est rien passé, donc je les condense en une seule, etc. Donc, pour le coup, oui, j'altère la réalité. Ça aurait pu être un récit. Après, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Je ne sais pas exactement pourquoi. Finalement, c'est fait comme ça.
D'accord.
Tant pis ou tant mieux, je ne sais pas.
Alors, je disais tout à l'heure qu'avant, vous aviez voyagé en Amérique latine, notamment au Pérou. Il ne s'agissait pas d'un voyage qui était comparable à celui que vous avez effectué au Mexique. Mais déjà, au Pérou, qu'est-ce que vous alliez chercher dans ce pays ?
En fait, ça ressemblait un peu, finalement, au Pérou. C'était sur les traces de Dennis Hopper, qui avait tourné un film qui s'appelle The Last Movie, juste après Easy Rider. En gros, je résume, mais après Easy Rider, les studios Universal lui donnent $1 million, qui à l'époque était une somme gigantesque. Et il se dit, je vais faire un film sur les films, je vais aller au Pérou, dans un petit bled qui s'appelle Chinchero, et je vais faire un film d'art, etc. Et donc Universal lui donne les 1 million. Lui, il y va avec Samuel Fuller, il y va avec James Cloak, il y va avec un photographe de Magnum, je crois Jodorowsky aussi, et hop, ils vont là-bas. Et puis finalement, le film se passe très mal. Il rentre, entre-temps, il s'était fait larguer par sa femme. C'était 71, donc il avait une grande villa, il y avait un harem de... Il y avait des soirées tout le temps, il y avait des femmes de partout, etc. Et puis lui, entre deux soirées, il essayait de monter son film. C'était un fiasco complet. Et Universal l'a boycotté après un jour. Juste après sa sortie, Universal l'a boycotté. Et donc, ça s'était passé en 71. Et donc, ce que je voulais, je crois que c'était en 2011, 2012, 2013. Moi, ce que je voulais, c'était avoir des témoignages directs des gens qui avaient vu ce type blanc complètement dingue, qui était venu chez eux. En plus, en 71, Chincheros, c'est à côté de Machu Picchu. Mais en 71, c'était vraiment pas connu. Et donc, ils ont vu venir des gens avec un appareillage électronique dingue pour faire un film. Et ils sont arrivés, hop, ils ont mis un peu le tempo. Et après, ils sont repartis. Et je voulais voir ce qui restait de ces trucs-là, avec ces gens qui étaient des Incas et qui ont vu ces gens-là et qui me racontent un peu comment c'était passé et quels étaient en gros les dessous, qui avait participé à quoi, etc. Et donc j'y étais allé pour ça. Et je savais que les gens qui avaient participé au film vivaient encore. Et donc ça me faisait des témoignages de première main en gros. Et je pouvais le raconter. Finalement, je suis revenu de là-bas. J'ai fait deux articles, un sur Denis Hopper, un sur la Vierge de Paucartambo, qui est un festival au Pérou aussi. Et puis j'étais très content, ça s'arrêtait là. Mais pour Arto, c'était autre chose. Pour moi, c'était quelque chose de beaucoup plus important. Il fallait pas un article de 6 pages quelque part. C'était quelque chose qui demandait une maturation, parce que moi j'écrivais tous les jours là-bas, sur place, et puis quand je suis revenu, je l'ai laissé de côté, mais j'y ai pensé, etc., pour après lui donner sa forme, finalement, et pour en faire quelque chose de plus substantiel qu'un article de presse, quoi.
Mais est-ce qu'on pourrait dire, alors je vais peut-être un peu vite, mais ce que vous allez chercher sur les traces de Nini Souper, ce que vous allez chercher sur les traces d'Arto, est-ce que finalement vous n'avez pas une certaine dilection pour les gens qui ont foiré quelque chose par rapport à leur propre quête?
Bah, j'aime bien ça. Ça, c'est un peu le don quichotisme. Enfin, c'est quelque chose qui... C'est des gens qui réussissent pour rater à la fin. Et donc oui, j'aime bien ça. C'est des personnages qui m'intriguent. Et puis, ensuite, il y a en plus des similitudes entre les deux que j'ai bien sûr fait plus tard, mais Hopper, on lui donne une caméra pour réaliser après son film Out of the Blue 9 ans plus tard, parce que les studios lui font plus confiance, et Arto, quand il revient, il se fait interner pendant 9 ans. Et donc c'est des personnes à qui on a voulu retirer la parole pendant près de 10 ans, et qui finalement ont pris leur revanche avec leur postérité, quoi, finalement. Ce qu'ils ont fait était plus fort que les gens qui voulaient les arrêter sur le moment. Et donc, moi, j'aime bien donner, non pas la parole à ces gens-là, mais pour moi, sont importants à représenter et à montrer que les Tarimaras, c'est quelque chose qui est exceptionnel, et le Last Movie, c'est pas vraiment une daube, quoi. C'est quelque chose de mieux.
Alors, Arto écrit... La culture rationaliste de l'Europe a fait faillite. Et je suis venu sur la terre du Mexique chercher les bases, dans une de ses conférences, chercher les bases d'une culture magique qui peut encore jaillir des forces du sol indien. Alors pour vous, en 2017, ce constat, cette démarche, paraissait tout à fait d'actualité.
Oui, et je pense que c'est d'actualité depuis très longtemps. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui est d'actualité aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient de se passer ou quelque chose qui est dans l'air du temps. Et puis finalement, quand je lis des livres, par exemple, même Ernest Hello, son père lui disait le catholicisme est mort. Avant Nietzsche, il disait le catholicisme est mort. Maintenant, on donne des représentations pour le peuple. Et donc, ça a été d'actualité depuis très longtemps. Pour moi, j'ai l'impression que c'est mon actualité, que c'est une actualité brûlante, quoi, presque. Et en fait, pas du tout. Et Mais bon, tant pis, c'est mon actualité, donc c'est la seule que je connais. Et donc pour moi, oui, c'était quelque chose d'analogue que je vivais. J'avais l'impression qu'il y avait une espèce de moment comme lui, où aujourd'hui, il ne voulait plus dire grand-chose, où il y avait toutes les réjouissances ne réjouissaient pas. Enfin, on nous donnait une espèce de bonheur factice, et puis finalement, on se contentait de ça. Et puis moi, non, ça me contentait pas vraiment, et je m'identifiais exactement à ce que lui racontait dans les Tarahumaras. Et dans ce que je voulais chercher moi, c'était non pas les Tarahumaras, mais la réponse d'Artaud envers les Tarahumaras. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une. C'est pour ça que c'est un peu différent avec ce que lui Artaud a fait, parce que Artaud, lui, l'a fait au tout début. Il était là-bas pour retrouver une nouvelle image de l'homme. Moi, je voulais trouver une image de l'homme similaire à ma représentation de l'homme d'avant, finalement. Et donc, lui, il va au Mexique avec les Indiens, et moi, je vais au Mexique retrouver Artaud, qui a retrouvé les Indiens, en espérant retrouver Artaud par les Indiens, finalement.
C'est vraiment un voyage que vous faites donc dans les pas d'Artaud, jusqu'au bout d'ailleurs. C'est un voyage qui se prépare, malgré tout. Non? Concrètement, comment vous l'avez préparé ce voyage? Pas parti,
Très
tout ça.
peu, non,
Très peu.
j'ai très peu préparé. Dès que j'ai eu assez d'argent, je me suis pris un billet d'avion pour Mexico City. Ensuite, je m'étais mis une somme en me disant, voilà, j'aurai des hôtels, des hôtels, des hôtels, des espèces de bouges, quoi, vraiment pas cher, mais en même temps, j'aurai quelque chose devant toi. Et puis j'avançais petit à petit. Pour moi, le but, c'était la Sierra Tarahumaras, parce que son récit et de la Sierra Tarahumaras. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était partir de Mexico, parce que Mexico, là, ce que vous avez lu, c'était dans Message révolutionnaire, et donc, il a fait des discours à l'UNAM, dans l'Université de Mexico, et donc, il y a été. Et donc, il y avait des traces, il y avait des empreintes qu'il avait laissées, même si la ville a changé, il y avait quand même des repères dans cette ville, et puis, après, puisque le Mexique est très grand, il a fallu que je le fasse par étapes, pour finalement aller jusqu'à la Sierra Tarahumaras, où son texte a été fait et finalement son livre, quoi. Donc, pas préparé. J'ai regardé les bus les moins chers, je m'arrêtais là, je prenais un hôtel, je m'arrêtais là, etc. Jusqu'au moment où j'arrive dans la Sierra Tarahumaras, et là, par rapport. Enfin, je sais pas si ça va.
Tout va bien.
Non, je sais pas si ça va parler d'une autre question, mais.
Non, mais bien sûr.
En tout cas, là-bas, d'être seul, puisque maintenant la CIA est contrôlée par le cartel majoritairement, il fallait que je sois à l'abri. Et donc, je suis allé une fois chez un prêtre pour être à l'abri, finalement. Au départ, c'était ça. Pour connaître quelqu'un de la zone. Et puis, cette personne, puisque c'est des petits villages et que la religion est toujours très, très forte et les gens y sont imprégnés, les Tarahumaras prient la Vierge de la Lune, le cartel prie la Vierge de la Mort et les Métis, la Vierge tout court, en gros. Et donc le prêtre a une figure très importante. Et donc je suis allé le voir et je lui dis, est-ce que je peux rester avec vous? Il m'a dit, bien sûr, vous allez faire quelques bricoles dans les églises. Et puis finalement, je suis resté avec lui quelques jours et je lui ai demandé, dans les étapes que j'allais faire, s'il connaissait des prêtres, s'il pouvait me mettre en relation, en gros. Et puis finalement, j'ai fait toute la Sierra dans des paroisses.
Je reviens au départ sur votre préparation, votre impréparation. C'est-à-dire que vous êtes réellement parti au fond comme un routard. Parce que là, vous dites, j'ai rien préparé vraiment,
Bah.
j'avais juste un peu d'argent, et puis, bah, Dieu va, mais allons-y. Pas forcément, enfin voilà, c'est une démarche un peu particulière, surtout aujourd'hui.
Ouais,
Sans
je sais
filet.
pas, je sais pas, c'est vraiment particulier.
Sans aucun filet, on est bien d'accord.
Ouais, mais le truc, c'est que si j'avais eu un filet, j'en aurais profité. Je pense que les gens font comme ils le peuvent, vraiment. Si j'avais eu l'opportunité d'avoir un filet et de
et de pouvoir faire des choses mieux, ou d'être dans des lieux plus sympas, etc. Peut-être que je l'aurais fait. Mm-hmm. J'en sais rien, je sais pas. Moi, je sais que le voyage était dicté par le manque ou le fait que voilà, j'avais tant et donc il fallait que je
fasse... c'était une nécessité quand même.
Ben, c'était une nécessité. De partir, c'était une nécessité. Et après, une fois sur place, il faut se rendre à la nécessité et faire le nécessaire pour avancer et arriver jusqu'au bout. Parce que moi, ma crainte, c'était d'un moment de devoir rebrousser chemin et puis appeler un pote à Mexico en disant voilà, est-ce que tu peux m'héberger pendant 3 semaines, il me reste 3 semaines, etc. Donc ça, je ne le voulais pas. Donc j'ai tout fait pour vraiment arriver au bout.
Mais d'emblée, c'est une quête de sens quand même que vous entreprenez. C'est presque une quête mystique d'emblée.
Vous avez d'emblée, non ?
Oui.
C'est une quête mystique floue. Mm. C'est une quête mystique par inverse. C'est un surnihilisme, en gros. Mm. Je voulais tout ce qui ne se rapprochait pas du nihilisme. Donc ça restait hyper flou. Je ne savais pas, je sais qu'il y a des choses qui me touchent particulièrement. L'image, l'esthétique m'a beaucoup touché. Catholique, moi je sais que chez moi j'avais des Giotto quand même que je regardais. Je sais que dans les églises je regardais les peintures, je regardais les saints, je regardais les archanges, je regardais les anges, je regardais les dominions, etc. Et pour moi ça me paraissait un culte presque païen. Mm-hmm. Jusqu'au moment où je réalise qu'en fait chaque personnage, chaque entité était une partie de la figure du Christ et que tout ça faisait le Christ de face. Mais pour moi c'était ça, c'était un surnihilisme. Vraiment, je pouvais pas me douter finalement que la quête donne quelque chose d'autre. Après, là, on a le livre à rebours, quoi, finalement. C'est que je suis parti de la fin pour finalement créer le début. Et c'est pour ça qu'il y a une... c'est pour ça que je l'ai mis en chapitre, quoi, pour faire ce comme dans la Divine Comédie, finalement. Mais au début, ce plan n'existait pas. Il n'y en avait pas de plan. Aujourd'hui, il est facile à voir, le plan, rétroprojectivement, parce qu'il y a le livre. Et donc, on se dit, oui, finalement, tout donne un sens. Mais le sens, il faut le donner une fois que le livre est fini, pour avoir le sens premier.
Alors, pas une nécessité tout à l'heure, mais il y a aussi cet aspect du hasard. Et le hasard, j'y mets quand même des grosses, grosses guillemets. Mais votre quête, elle prend quand même une dimension, à un moment donné, très particulière, je pense, à la rencontre que vous faites avec ce mendiant à Guanajuato, tout au début du voyage. Est-ce que vous étiez, au fond, très en quête aussi de signes, puisque là, ça a été un sacré signe que la rencontre avec ce mendiant?
Oui, je pense que de toute façon, si on s'arrête, si on pouvait avoir conscience de tous les signes, il n'y aurait plus de hasard. Donc, non, on s'arrête à certains signes, on a conscience de certains signes, mais si tous les signes qui se présentaient à nous, on avait conscience, je pense que le hasard n'existerait plus. Là, oui, c'était un signe de plus, en gros. Et c'était un signe qui était forcément... c'est comme si, parfois, je ne sais pas, mais depuis longtemps, j'ai en tête 747, je ne sais pas pourquoi, et je le vois partout. Mais je le vois partout parce que je l'ai en tête. Je le remarque parce que je l'ai en tête. Si je ne l'avais pas en tête, je ne le remarquerais pas. Et donc là, c'est la même chose. Si je ne l'avais pas finalement en tête, je ne l'aurais peut-être pas remarqué, ce type-là. Et puis finalement, pour moi, il comptait énormément parce que je l'avais en tête.
Parce qu'il ne fait quand même pas n'importe quoi, ce mendiant.
Non, il ne fait pas n'importe quoi. Pour moi, c'était le... Ben, ça pouvait être une représentation d'Arto.
Une incarnation.
Oui, une incarnation d'Arto. De type... complètement dingue, en même temps ultra lucide, on ne sait pas vraiment, en train d'écrire n'importe quoi, ou quelque chose, finalement, tout le monde s'en fout. En fait, c'est un mendiant qui est là, les gens ne lui donnent aucune importance. C'est comme s'il parlait, on dit entre guillemets, mais c'est comme s'il parlait en parenthèse, ce mec. C'est que des annotations un peu étranges qu'on met en aparté, quoi. Mais parfois, il y a certaines personnes que ça intrigue, ou... on se demande vraiment ce qui se passe. Et puis lui, je le voyais qui écrivait sur une feuille. Et puis qui écrivait. Donc moi, je me suis assis, je le regardais. Et il écrivait sur sa feuille, de face, après le verso. Et puis, quand il n'a plus de place, hop, il prend son t-shirt, il écrit dessus, il écrit derrière, etc. Et donc, il y avait un besoin d'écriture. Et pour moi, c'est la chose la plus belle. Quand il y a un besoin d'écriture et qu'il faut même l'écrire pour après le revêtir, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Et donc j'en parle dedans.
Oui, mais c'est presque une balise, d'une certaine manière. C'est quelque chose qui vous conforte dans votre avancée, non ?
Bah, je sais pas si c'est un confort, mais en tout cas, ça répond au signe que j'attendais, quoi, presque. Enfin, si c'est quelque chose qu'on a en tête et qui se matérialise, en gros, même si on n'est pas conscient, on se dit, tiens, quelque chose se passe. Et puis on avance, et puis on fait d'autres choses, et puis... Mais en tout cas, ça reste en tête, et puis on se dit, voilà, continuons, peut-être qu'on en trouvera d'autres, peut-être des signes plus concrets, peut-être des artefacts, peut-être quelque chose qui va nous rapprocher un peu plus de cette quête. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était un signe parmi d'autres, mais qui était important d'évoquer. C'est pour ça que je l'ai écrit.
Votre vrai voyage, si j'ose dire. On a le sentiment, en vous lisant en tout cas, hein, que il commence, enfin, votre voyage pour la Sierra Tarahumara, il commence vraiment à Chihuahua City. C'est-à-dire qu'au fond, avant, vous parliez tout à l'heure de Mexico, et puis effectivement de la reconnaissance des lieux, mais quand même, la modernité, la contemporanéité, si vous voulez, des lieux, vous paraissez normal, quelque part, c'est normal, on arrive à Mexico, on se doute bien que la ville a fondamentalement changé, même quand on approche dans des villes un peu moyennes, on se dit bien qu'effectivement le temps a passé, ça ne heurtait pas votre démarche à ce moment-là. Donc le vrai voyage commence au moment où vous allez vraiment partir, et un deuxième départ presque.
Ah oui, oui, non mais de toute façon, moi j'en étais conscient, hein. Le premier était, bon déjà pour... Moi, ma copine est espagnole, et donc je suis allé au Pérou, au Chili, etc. Et donc, l'espagnol, je le maîtrisais plus ou moins, mais c'était vraiment pour le... Je suis allé là-bas en disant, je vais vraiment pouvoir me faire comprendre et pouvoir comprendre tout. Donc, il y avait vraiment... me refaire l'oreille, en gros. Et puis après, il y a aussi le fait que les distances sont longues, et donc il faut forcément s'arrêter parfois. Et en arrivant, petit à petit, c'est vrai que pour moi, la porte extrême, quoi, c'était l'arrivée dans le Sierra. Mais même Chihuahua, c'était le patio, si vous voulez. C'était vraiment l'étape d'avant où il y a le petit tapis avec écrit « Bienvenue ». Là, c'était pas vraiment bienvenu, quoi. J'étais pas vraiment bienvenu. Mais en tout cas, c'était le petit tapis qui me mettait dans la maison que j'avais envie de visiter, quoi.
Dans les jours d'aujourd'hui, enfin, dans notre contemporanéité, et vous le saviez, ça, ce voyage est un voyage dangereux, à cause d'une véritable insécurité, pas celle qui nous assaille de temps en temps ici. Il y a les cartels de la drogue, il y a les agressions, il y a les meurtres, il y a les enlèvements, et vous passiez outre. Vous êtes passé outre. Est-ce que vous étiez d'une certaine manière quand même préparé à ça ?
Non. Non plus, mais je suis allé vraiment en complète insouciance. Une fois que je suis rentré dans la Sierra, je me suis dit que oui, il y avait un problème quelque part, forcément. Et puis, il y avait des personnes qui me disaient, à Mexico, que je rencontrais, qui me disaient « La Sierra, c'est super beau. » Je leur demandais, et donc explique-la-moi. Ils disaient « Non, on n'y va pas parce qu'il y a trop de meurtres. » Donc, j'étais prévenu, en gros. Mais bon, finalement, je me disais, bon, j'y vais avec une trouille au ventre. Mais plus je m'en approchais, plus je me disais, ce serait débile de faire demi-tour. Jusqu'au moment où j'arrive dans la Sierra, dans un village qui s'appelle Batopilas, où là, je vois l'armée du village, en gros, qui se bat contre les cartels, parce que les cartels essaient de faire pousser leur drogue dans ces régions-là, qui sont propice à ce genre de choses, et donc eux se battent contre les cartels pour finalement les empêcher d'envahir leur terre. Sauf qu'ils sont ultra préparés, ils ont des armes semi-automatiques, des pick-up, etc. Et que ça reste des jeunes, ils ont en moyenne 15 ans, et que bah, quand on est jeune et qu'on fait la guerre, ben, aussi on se saoule, aussi on fait marrer ses potes d'infanterie, etc. Et je voulais pas être un dommage collatéral d'une marade, quoi. Je vais les tirer dans les tibias et puis on verra bien. Et donc tout ça faisait qu'accroître, en gros, même si j'ai pas vu le cartel à ce moment-là, eux, même si c'était en charge de la sécurité, me donnaient pas du tout confiance, quoi. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai demandé au prêtre si je pouvais rester avec lui pour connaître quelqu'un.
Vous arrivez à Kryl et puis vous écrivez, vous y êtes, hein, quand vous êtes à Kryl quand même, hein, complètement. La réalité qui me fait face en descendant du train est à l'opposé du monde décrit par l'écrivain. C'est plus qu'une déception. Vous écrivez vraiment à l'opposé.
Ouais.
Il y a une espèce de douche froide quand même.
Oui, non mais. Et en même temps, c'est assez débile, mais le Artaud, lui, maintenant il y a un train qui part de Chihuahua jusqu'à Los Mochis, qui est sur la côte pacifique. Et donc, c'est un train qui reste assez touristique. Et donc, il y a des arrêts comme ça. Et donc, Kryl fait partie de cet arrêt-là. Et donc, c'était presque insouciant de ma part de penser que, finalement. Pour moi, je pensais que j'allais arriver dans la Sierra et que j'allais retrouver une espèce. Je pensais que c'était les bucoliques de Virgile, quoi, presque. Saupoudrée du verre d'Artaud. Je pensais vraiment que c'était ça. Mais de ma part, c'était assez insouciant parce que ce train-là ramène des touristes de Chihuahua jusqu'à Los Mochis. Et donc, forcément, ces villages. Dès qu'il y a des touristes, finalement, perdent leur nature de village même. Les Indiens qui s'habillent presque folkloriquement, quoi. J'ai l'impression d'être à Montmartre. C'était du folklore. Il y avait des photos, les gens prenaient des photos, etc., avec les Indiens qui s'habillaient comme ils le faisaient d'habitude, mais pour prendre des photos. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je me tire le plus vite possible. Parce que c'est pas là que je vais trouver, même si Artaud est passé par là, lui en cheval, non, c'est pas là que je vais trouver aucune réponse aux questions que je me posais.
Mais au-delà, si vous voulez, du côté folklorique qui peut se passer à Kryl, il y a quand même une manière de s'habiller, une modernité qui est rattrapée, tous ces gens-là qui ne sont plus du tout ceux qu'on peut lire sous les lignes d'Artaud. Et là aussi, c'est quand même sacrément difficile d'être confronté à ça. C'est-à-dire, non pas à des Indiens déguisés en Indiens, mais aussi à des gens qui essayent de ressembler à quelque chose, à des modèles différents, qui sont pourris par l'argent, qui sont pourris par tout un tas de choses, par cette modernité, justement, que vous avez essayé, vous, de fuir, d'une certaine façon.
Oui, en fait, c'est important de dire que la Sierra Tarahumara, c'est une espèce de grand canyon, quoi, comme aux États-Unis, et donc qui est vraiment protégé géographiquement. Et donc on se demande comment les choses peuvent pénétrer à l'intérieur. Et donc on a l'impression d'une grande colonne, une grande couronne d'Apollon. Et puis on a l'impression que quand on rentre par ces murs-là, tout va être idyllique, et en fait, forcément. En fait, non. Il faut pas être naïf comme moi je l'étais, mais oui, la plupart sont en jean, la plupart ont des sachets plastiques avec des canettes de Heinz ou de machin. En fait, oui, ce monde-là a imprégné tout le monde. Et donc ces gens qui étaient à l'époque, en tout cas décrits par Artaud, des demi-dieux. C'est dur de voir des demi-dieux avec des carottes en conserve, quoi, par exemple. Et donc, on se dit quelque chose est advenu et c'est tragique.
Et c'est violent.
Et c'est violent, oui.
D'où peut-être cette envie, parce que c'est un livre qui s'écrit donc par étapes, comme vous avez expliqué, d'où cette envie d'aller toujours plus loin dans cette quête, de franchir des étapes les unes après les autres, de ne pas abandonner le rêve, même si, comme vous l'écrivez, je crois. Le rêve commence à craquer, à s'effriter et à partir en lambeaux. Il y a un acharnement quand même à continuer. À cause de cette réalité-là ?
Oui, enfin, c'est pas un acharnement. C'est qu'à ce moment-là, on se dit, il faut qu'on aille plus loin. Donc, ça donne envie, en tout cas, d'aller plus loin. Et donc, le village que je voulais aller voir, c'était Neurogashik, parce que Arto le décrit amplement, quoi. Et donc, pour moi, c'était vraiment le village qui... Le village dans lequel il fallait que je reste le plus longtemps possible. Mais ça m'a donné envie de partir de Kri très rapidement, en tout cas. Donc ça pousse à continuer et à laisser derrière ce qui est plus très intéressant en s'attachant à ce que peut donner l'avenir, quoi, finalement.
On parlait des signes tout à l'heure et je pourrais presque dire que c'est des prises de varampe. On parlait tout à l'heure du mendiant de Bonarato. Ce qui se passe à un autre moment, c'est cette rencontre extrêmement fugitive avec une petite fille que vous voyez passer et dont vous dites elle est porteuse du feu. Alors que bon, c'est une petite fille, j'allais dire ordinaire, de son âge, qui joue. Mais voilà, à ce moment-là, on a le sentiment, en vous lisant, que ça vous donne un sursaut supplémentaire, ça vous permet une accroche pour pouvoir continuer.
Soit les signes, on les remarque, soit on les invente, en gros. Pour moi, elle signifiait ça, mais c'est vraiment mon interprétation. Je pense que soit vraiment quelque chose émanait d'elle qui m'a fait écrire ça, soit c'est moi qui voulais quelque chose émaner d'elle à ce point-là, qui m'a fait le croire, en tout cas. J'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a donné envie de rencontrer cette innocence qui porte toujours le feu sacré de Weimaras, comme le désigne Anton Artaud. Et donc, ça se passe à Krill aussi. Krill aussi, c'est à côté de San Ignacio, où il y a plusieurs choses qui se sont passées, qui m'ont aussi donné envie de connaître un peu plus, enfin, pas de connaître un peu plus, mais donner envie de continuer pour vivre avec les Tarahumaras dans leur croyance, quoi, finalement.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure à Batopilas, vous réfugiez en quelque sorte dans l'église, ce qui vous donnait une autre forme de scander votre itinéraire ensuite, parce que l'extérieur est décidément quand même sacrément hostile. En lisant ça, je me disais que vous, et en vous lisant, vous réfugiez quand même assez souvent dans les églises, pour écrire notamment. Et j'ai même lu quelque part que quand vous étiez enfant, vous faisiez du skate dans les églises.
Ouais, c'est... Mais ça... Bon, ce qui s'est passé, c'est que... Moi, je suis une famille athée, et donc j'ai toujours vu l'église comme mes parents le voyaient. Et qu'est-ce qui est plus... quand on est jeune, qu'est-ce qui est plus cool que de... Que de faire des choses pas bien, dans quelque chose de sacralisé. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi se rebeller contre ses parents, et puis voir des choses qui sont là, qui n'ont jamais été inculquées. Et donc, je me réfugie dans les églises, parce qu'il me fallait cet espace pour écrire, parce que j'écris énormément de choses là-dedans. Ensuite, pour me protéger, en gros. Mais tout ça, ce ne sont pas vraiment des hasards. Ces églises m'ont aidé, et donc je l'ai... je ne sais pas comment...
Je voudrais juste vous lire justement à ce propos-là. Et on est donc à Vatopilas. Ça fait bizarre de me réveiller et d'être directement dans l'enceinte de l'église. Il faut dire qu'à part écrire dans les abbayes et m'inspirer de l'image du Sauveur, ce qui se passe dans les chapelles, ce n'est pas mon truc. J'étais élevé par des parents déchristianisés, la première génération d'athées de leur famille. Ils voyaient l'église d'un mauvais œil, mes vieux. C'était selon eux une menace pour la raison et la liberté. Et la messe du dimanche, les curés et l'extrême-onction, ça les emmerdait au plus haut point. C'est l'explication de mon absence de baptême, de ma non-lecture catéchistique, des petits morceaux désordonnés et contradictoires de la Bible et de mon déficit en matière de foi. Produit de mon éducation, j'ai toujours trouvé que dans la religion, la forme l'emportait sur le contenu. Enfant de la colère, j'ai eu aussi, loin que je m'en souvienne, un compte à régler avec le clergé. Je prenais ces types pour des agenouillés douceâtres, des catholards au catholicisme technique, des vulgaires fonctionnaires de la foi, rentiers de la croyance. Pardon. Excusez-moi. J'aurais pu tourner les pages, j'aurais pu dire. Ça casse un peu le truc. Les trafiquants du Christ, des mauvais instituteurs du miracle, du mystère et de l'autorité, selon les mots de Dostoïevski, dans les frères Karamazov, des individus un peu suspects, à la périphérie de la mystique en quelque sorte, et surtout chez les colonialistes jésuites qui distillent la paix, le bonheur et la conscience par la servitude. Dans le jardin du monastère, le père Roel est assis à une table. Il porte son habit sacerdotal et des lunettes de vue de fonctionnaire pauvre avec des verres fumés. Il a une voix calme et termine chaque phrase par une virgule et mon prénom derrière. Bien dormi, Félix ? Ou « Aujourd'hui, je pensais nettoyer les bancs. Qu'est-ce que tu en penses, Félix ?» Des phrases de ce genre. Entre ces paroles bienveillantes, la lumière douce du matin filtrée par les grands arbres, le café de moyenne qualité, la sobriété du mobilier et le manque de confort, je sens que le calme du monde déborde sur moi. Cette tranquillité se dissout peu à peu, dans mes veines. C'est une vraie rencontre, le père Roel, quand même.
Oui, mais en fait, on peut avoir des croyances quand on est jeune, et puis ce n'est pas forcément ses propres croyances. On injecte des croyances, et puis on croit ce qu'on nous a inculqué. Oui, parfois, on se dit qu'on s'est trompé, et puis il y a des gens qui nous montrent à quel point on s'est trompé. Et lui a été qui était le premier, Padre Juanito, qui a été le déclencheur ultime, mais il y a des êtres comme ça qui nous font regretter tout ce qu'on a pu nous inculquer et puis se rebeller contre notre éducation pour avoir quelque chose de plus grand, quoi.
Entre lui et le père Juanito, on peut dire qu'il y a quelque chose d'inédit qui se passe en vous.
Il y a quelque chose d'inédit. C'est quelque chose d'inédit parce que c'est des sensations, un désir de piété, etc., qui m'ont jamais envahi à ce point-là. Mais c'est vrai que en regardant des peintres, j'ai pu ressentir des choses analogues, mais qui restaient images finalement. Et donc là, il y a quelque chose derrière, il y a un être, et un être aussi qui utilise le verbe. Et donc, il y a vraiment... il y a plus que l'image, quoi. Et donc, on se dit que l'image peut faire des choses, mais pas autant que le verbe, quoi. Ou les gens qui le distillent.
Vous dites, vous écrivez plutôt que la Sira est une partie d'échec initiatique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous voulez dire qu'il y a une stratégie? Ou est-ce que c'est une suite de revers et de défaites?
Moi, j'imaginais le septième saut de Bergman, dans lequel le chevalier joue avec la mort tout le long du livre. Et donc, c'était un peu ça. C'était, je jouais, je ne sais pas si c'était avec la mort, ou avec la vie, ou avec... avec autre chose, quoi. Mais il y avait une espèce de jeu, un jeu transcendantal. Et donc, oui, je jouais aux échecs. Parfois, je jouais mal, parfois je jouais bien, parfois quelque chose arrivait, et mon adversaire jouait mal, on ne sait rien. Et finalement, j'arrivais à continuer la partie. Et peu à peu, je plaçais mes pions, en tout cas mon pion qui était moi, jusqu'à arriver vers le but ultime, quoi, qui était Nerogashik.
Justement, là, vous écrivez... je reviens sur ce côté un peu obstiné que vous avez. C'est, les rêves ne tiennent jamais leur promesse. Ces derniers temps, la vie ne m'a donné que de la mélancolie, de la déception et de l'angoisse. J'attends Nerogashik avec impatience.
Oui, en fait, quand on a des... Plus on a envie de quelque chose, moins ça arrive, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. j'avais eu des attentes qui étaient plus basses, je m'en serais contenté, mais c'était pas le cas, et donc je pouvais pas me contenter de ça, quoi. Mais c'est un peu la vie, hein, finalement. Plus on attend quelque chose, moins ça se passe, et plus on essaye de débattre pour que ça arrive, et puis plus on se débat, plus ça devient brouillon, quoi. Mais en tout cas, bon, là c'était un petit but à côté, donc je savais que même si je me débattais, je pouvais à la limite me débattre jusque-là.
Un orgasme, on va dire, c'est la clé quand même, parce que vous êtes complètement dans la proximité du lieu. Vous vous retrouvez à dormir à deux pas de l'endroit où il avait dormi, Arthaud.
C'est même plus fort que ça, c'est que moi je suis resté dans le presbytère, et ce presbytère de l'église de Padre Joel, de Juanito, à l'époque, c'était les dortoirs de l'école anglaise dans lesquels Arthaud dormait. Et donc je me suis demandé si on ne dormait pas finalement dans la même piole.
Et c'est là où vous rencontrez le fils du guide d'Arthaud. C'est quand même un truc assez improbable. Et on parlait d'Yves tout à l'heure, vous dites le fils du guide de mon guide est mon guide. Et voilà, donc d'une certaine manière là, vous avez quand même réussi un sacré truc.
Oui, mais pour le coup, il y a des choses. Arthaud, il est allé en 36, et donc j'imaginais personne vivant qui pouvait me raconter des histoires directes. Et donc, je vais prendre le padre Juanito me dit bon, ici, on ne cuisine pas beaucoup, mais si tu veux, va chez la dame Burrito, il l'appelle. Va chez la dame Burrito, elle te fera un burrito, etc. Donc, moi, j'y vais. Et puis, finalement, on parle un peu. Et elle me dit moi, je dis Arthaud, vous connaissez. Elle me dit Arthaud, ouais, peut-être, ça me dit quelque chose, machin. Allez voir dernière maison de l'allée là-bas. Ok, donc je termine mon burrito. Et je vais voir ce mec. Et puis, c'est avéré que c'était le fils du guide d'Arthaud qui m'a proposé d'aller dans les grottes qu'Arthaud avait visitées avec les Tarumaras, dans lesquelles il a pris les premières fois l'autorité, etc. Dans sa grotte, en gros, d'initiation, dans laquelle il a commencé une semaine, puis après, un peu plus loin. Et moi, je me disais, mais comment le croire, ce type, quoi, finalement, pourquoi il ne voudrait pas, finalement, que je lui allonge un petit billet. Et il m'a sorti le visa, la photocopie du visa d'Arthaud, en disant, Arthaud lui a donné à mon père, en remerciement, machin, etc. Et donc, moi, j'étais... c'était quelque chose que je ne cherchais pas et que j'ai trouvé, finalement. Comme, ce qui s'ensuit.
Et là, c'est la dernière marche, d'une certaine façon. Parce qu'après, il y a votre expérience du Médiocre, qui est quand même un drôle de truc.
Ouais, mais qui était décevant, finalement.
Ah ben oui, je sais bien, c'est étrange et mauvais, presque. Hein.
Non, c'était décevant. En fait, finalement, si on regarde comme ça, on se dit que les choses auxquelles on attache le plus de valeur, finalement, c'est celles qui ont, comme du sable, en gros, disparu entre ses doigts, et que les choses qu'on n'attendait pas sont révélées les plus belles, finalement. Et que les rencontres que j'attendais pas ont été les plus belles avec les prêtres. Et puis, finalement, la révélation que je pensais avoir avec le peyote, finalement, c'était une autre révélation. Le problème avec la révélation, c'est que elle révèle que le mystère existe en tant que mystère, et donc finalement, on rêve dans le mystère, mais on sait qu'il existe. Et donc je suis resté avec cette fin-là, en pensant avoir une réponse définitive sur la conscience d'Arthaud, finalement, de par le peyote. J'ai eu une révélation sur le mystère, qui est donc resté un mystère.
Mais c'est douloureux.
C'est douloureux sur
le coup.
Mais en même temps, bon, faut pas réussir tout le temps. Non. Bien sûr que sur le coup, oui, bien sûr. On se dit qu'on a raté quelque chose, mais c'est comme ça.
Parce que vous êtes malade comme un chien, quand même, faut le dire.
Ah oui, non, mais pas. Physiologiquement, c'est quelque chose qui est éreintant, le pilloté. Qui est vraiment dégueulasse pour le coup, donc oui. Mais c'est vraiment, pour moi, comme je le disais, hein, j'y mettais tellement d'importance que j'ai voulu le raconter, et puis finalement, bon, ça donne rien, et donc c'est plein de choses sur le rien finalement qui auraient pu se passer ou qui se passaient en moi jusqu'à finalement une espèce de déflagration totale qui était le vomissement. Mmh.
Mais vous écrivez un poème, enfin 5 haïkus. Le rite nocturne recouvre tous les secrets et les sort au jour. Chirouillir en l'âme physique, faut que je pense à me faire empailler l'esprit. Je vomis mon corps, il ne reste que le goût de mon âme dans ma bouche, en bouche. Mon être vidé de la gerbe sur le sable et le monde en moi. Allez, un dernier. Celui-ci est pour la route qui mène au chaos. Vous avez synthétisé tout, là. Vous avez tout dit, en fait.
C'était l'expérience du peyote pour moi.
Alors, là-bas, on l'a compris hein, depuis le début, hein, vous avez trouvé ce que vous n'étiez pas venu chercher. C'est en gros, à un moment donné, on va dire presque le retournement de votre livre, c'est-à-dire c'est la mise en lumière de votre envers, de votre intérieur. Le livre d'Artaud m'a ouvert la route qui me menait au plus profond de moi. Son essai était-il un prétexte? Il semblerait que oui, l'auteur m'a initié. La sagesse tacite du Christ a fait le reste. C'est assez extraordinaire, non?
Oui. Ouais. Mais c'est difficile à expliquer.
Mais au fond, je veux dire, vous vous y attendiez. On a presque le sentiment que vous vous y attendiez.
Peut-être que je le voulais. Je ne sais pas si je m'y attendais. Peut-être que c'est quelque chose que j'ai attendu pendant très longtemps. Et donc, il fallait qu'à un moment, ça sorte. Mais pour moi, il fallait commencer l'infini par quelque part. Il fallait prendre un morceau quelque part parce que c'est quelque chose qui est trop immense. Et donc, pour y rentrer, quand on n'est pas initié, il faut y rentrer par un endroit. Et les prêtres, et puis l'expérience, et puis Artaud, et puis m'a donné l'angle, quoi, finalement. Par lequel le prendre. Et puis, c'était une croyance sans muscles, invertébrée presque. Et puis, depuis 2 ans maintenant, je sais que la musclée de la vertébrée, etc., c'était quelque chose qui était peut-être désiré, peut-être induit, peut-être, je ne sais pas. C'est dur à expliquer vraiment, mais c'est arrivé. Et j'essaye maintenant de l'expliquer ou de le renforcer.
Je disais s'y attendre, je disais ça parce qu'en regardant bien, c'est une quête, enfin celle-là que vous poursuivez depuis très longtemps. Dans Weiss, en 2016, vous avez écrit un article qui s'appelait « J'ai voulu devenir catholique et j'ai échoué ». Et le chapeau de ce papier, c'est « Trouver un sens à ma vie, m'éloigner du matérialisme, comment j'ai médité sur tous les plans ». Comment j'ai merdé sur tous les plans. Et là, donc pour le coup, vous avez réussi. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez réussi là?
Bon, en gros, Weiss, c'est. Moi, je leur ai fait un article qui était très long et puis tout a été synthétisé parce qu'ils ont une ligne de. Mais bon, passons là-dessus. Après, il faut des conjonctions d'événements avec le présent. Moi, je pense que tout peut se produire, mais pas n'importe quand, etc. Peut-être que j'ai raté à cette époque pour finalement réussir là, et peut-être pour réussir au plus long terme, j'en sais rien. En tout cas, oui, c'est des questions qui me taraudent depuis longtemps. Et dans l'article, je parlais du moine d'Artaud, par exemple, mais je parlais de plein de choses. Saint Jean, je pense que quand on écrit, il faut avoir lu Saint Jean. Quoi. Donc, de toute façon, l'écriture est forcément chrétienne. Le, l'écriture occidentale, je veux dire, hein, quand nous on écrit, c'est juste des morceaux de Bible qu'on essaye d'étirer pour en faire des histoires. Mais je pense que quand on vient d'un pays comme la France et qu'on essaye de se raccrocher à quelque chose, forcément, on va tomber déjà sur des racines catholiques. Et puis après, on va lire des textes. Et Saint Jean, tout auteur, devrait avoir lu ça, quoi. Pour moi, c'est un prérequis presque. Et quand je dis que les racines catholiques de la France sont importantes, je le dis parce que quand j'ai vu les Tarahumaras, pour eux, leurs racines étaient importantes pour moi. Et donc, le fait qu'eux, en gros, délaissent leurs racines pour se vautrer dans un monde qui nous ressemblait malheureusement, eh ben, j'étais déçu pour eux. Et que il y avait des croyances qui maintenant sont de plus en plus catholiques. Et donc, ces croyances sont belles et en plus sont étayées de leur espèce de beauté païenne, etc. Mais il leur faut une croyance de toute façon. Et donc, qu'ils l'appuient dans le catholicisme ou qu'ils l'appuient dans leur croyance païenne de 3000, 10000 ans, eh bien, très bien. Mais que moi, en miroir, je me disais que pourquoi je suis déçu qu'ils abandonnent leur croyance si, dans le même coup, les croyances qui me rattachent à la France, c'était un effet miroir, quoi, finalement. Et donc, il y avait ces deux effets, moi qui les voyais et qui voyais leur généalogie, et moi qui voyais la mienne. Et puis tous les auteurs que j'aime bien, que ce soit Louis Mans, Blois, Ernest Hélo, etc., je suis attiré par ça, quoi. Donc,
est-ce que vous êtes, ce qu'on a fait, je crois que c'est vous qui le dites d'ailleurs, est-ce que vous êtes un anarcho-chrétien? Puisque vous parlez de vous faites, quand vous dites ça, vous faites référence à Dostoïevski et à Calafert.
Ouais, Tolstoï et Calafert.
Ouais. Tolstoï, pardon.
Non, en gros, je disais que le padre Juanito ressemblait à Calafert et à Tolstoï. Moi, je sais pas. Je sais pas exactement ce que je suis. Je voterai quand on me demandera mon avis dans un référendum, par exemple. Je voterai pas sans, je voterai pas pour une personne, et puis chrétien, je vous dis, je suis en train de muscler la chose, quoi.
Parlons deux minutes des éditions Sous X, que vous avez placé justement, je vais faire ça sous le signe de Léon Blois, puisqu'il écrit J'ai un nom parmi les hommes. J'ignore le nom de mon âme, c'est la phrase que vous avez mise en exergue. J'ignore d'où elle est venue, et par conséquent, je ne sais absolument pas qui je suis. C'est une drôle de profession de foi pour une maison d'édition.
Oui, bon, en fait, la maison d'édition était... Je suis tombé sur cette phrase de Léon Blois il y a quelques années, et puis elle m'a taraudé. Et bon, ça fait partie des choses qu'on se pose, mais... Et je me disais, qui suis-je? Et puis finalement, j'ai monté une maison d'édition, je me suis dit, ben voilà, si moi, même moi, je ne sais pas qui je suis, comment je pourrais appeler ma maison d'édition? Et donc je l'appelais Sous X, mais au lieu de l'écrire Sous X, j'ai pris une orthographe un peu différente, quoi.
Vous pouvez nous expliquer ce que vous publiez?
Pour l'instant, ça fait deux ans, mais c'est des livres, pour l'instant, livres photos, livres d'art, livres photos, graphiques, et on aimerait bien s'étendre un peu plus de contenu. Moi, j'adorerais, par exemple, écrire, faire une comparaison entre les icônes orthodoxes et les films russes. Je trouve qu'il y a énormément de ressemblances. Pas que dans les films de Tarkovsky, mais dans les films de Longuine, etc., ou de même Zvegintsev, on voit énormément de plans qui ressemblent à de la peinture, chrétienne, quoi. Et donc voilà, il y aura aussi ces choses-là à faire. Pour l'instant, ça reste de l'image, parce que j'ai pas trop le temps, et l'image, c'est ce qui reste le plus facile à faire, quoi. Une fois qu'on a les images, il suffit de les tirer. Mais oui, après partir sur le texte.
Parce que c'est des tout petits tirages que vous avez.
Ouais, c'est vraiment tout petit. Ça dépend, ça va de 10 tirages à 300.
Oui, donc on a du mal à se les procurer quand même.
Oui, bah, le problème, c'est que ça reste à Paris, quoi, dans les librairies parisiennes, ou sur notre site. Mais ça se vend assez vite, et des tirages à 10, c'est assez minuscule, quoi. Donc on n'a pas énormément en réserve, mais là, on aimerait bien pousser le truc un peu plus loin et faire des tirages plus gros, et puis distribuer avant un distributeur, etc.
Je m'attardais tout à l'heure sur Trinity, hein, qui est quand même quelque chose d'assez particulier, et qui correspond tout à fait à ce que vous disiez. C'est-à-dire, vous parliez de Saint-Jean, c'est pas anodin de faire des photos à Patmos, de les brouiller, et d'offrir cet espace apocalyptique, au fond, non pas à la rêverie, mais à la vision.
Ouais. Bah, je suis allé à Patmos pour Saint-Jean, et puis j'en ai fait des images, et je voulais des images voilà, qui soient brouillées, et qui soient... c'est des images de mer, en fait. C'est que la mer, et des images de fond uni, avec différentes... une captation de lumière un peu différente à chaque fois. Et donc, il fait un livre, et puis... sur du papier argenté. Et donc, il donne une réflexion à chaque fois, une espèce de lumière, et qui, pour moi, m'a rappelé l'apocalypse entre parties, quoi, de Saint-Jean.
On peut revenir, je crois qu'on a pas mal avancé quand même dans le temps, mais on peut revenir sur la Réunion et sur votre enfance et votre adolescence, parce que j'ai l'impression que c'est tout à fait primordial. Alors, je sais bien, l'enfance, les premières années, c'est primordial, tout ça, mais c'est quand même très particulier. C'est-à-dire que le peu que j'en ai lu, c'est dans ce que vous en avez écrit, encore une fois, dans Vice, c'est une enfance à la fois assez libre, et puis dans une société très particulière quand même, plus que cosmopolite, et une enfance d'expérience, enfin une enfance et une adolescence d'expérience permanente.
Bah,
je sais pas, c'est-à-dire que...
Non mais de vous expliquer que vous fumez à 11 ans, que vous bourrez la gueule,
il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont des expériences initiatiques, on peut les raconter comme ça, qui sont pas celles de tout le monde, quand même. Si,
je sais pas, je pense
que... Ça va lier au lieu.
Je pense que les jeunes peuvent faire la même chose en Normandie, quoi. Je pense que ça a pas grand chose à voir. Je pense que par contre, pour le coup, on était très libre parce que tout le monde se connaissait, c'était vraiment des petits bleds, etc. Et donc on pouvait aller on pouvait dormir chez des amis, passer un week-end facilement, etc. Rien n'était très loin. Mais c'était vraiment une époque très belle, mais tellement belle que finalement on pourrait ne pas s'intéresser à autre chose. Et puis moi je la trouvais pas si belle que ça. Enfin, elle était belle pour certains, et puis moi je préférais. Je jouais au tennis, et puis je lisais, je regardais des films, etc. Et puis on faisait la fête avec ce qu'il y a, comme vous dites, le zamal qui est le cannabis de là-bas, etc. Mais bon, ça c'est toute enfance, quoi. Je pense que tout le monde essaye des trucs, et puis après elle l'aime ou l'aime pas, quoi. Mais non, moi je pense pas trop que ça m'a vraiment marqué, la Réunion.
Vous écrivez quand même que vous avez hâte d'y retourner aussi.
Ah ouais?
Ouais, vous écrivez ça, je sais plus, alors pardon.
Oui, non, mais c'était peut-être pour un article comme ça, je sais pas. C'était pour faire une note sympa à la fin, une note gay, parce que. Mais non, vraiment, ça m'a. Non, ça m'a. C'est pas. Bon, l'île m'a marqué en tant que telle, mais les gens vraiment pas, et puis quand je suis parti, j'étais très content, parce que.
Par contre, vous dites que vous êtes enfui. Ouais. On s'enfuit d'une île, ça, on est.
Oui, on s'enfuit, mais on peut s'en. Non, il y en a qui sont restés, hein, il y en a qui sont restés. Moi je voulais partir pour la période possible, peut-être pas pour lire en elle-même, mais pour les gens. Mais après, c'est plus très intéressant.
Dans le livre, pour revenir à ce côté un peu politox quand même, vous buvez beaucoup, vraiment beaucoup, vous bourrez la gueule beaucoup. C'est pas uniquement visiblement pour supporter les choses, c'est dans une espèce de. Alors que Arthaud, lui, il était dans sevrage. Quand il arrive au Mexique, là, on a l'impression que pour le coup, vous prenez complètement pour propre pied.
Non, mais lui, il est un sevrage d'héroïne. Hein.
Oui,
c'est pas la même chose.
Oui.
Non, il devait prendre des verres comme moi. Mais moi, si je buvais là-bas, bon, soit il y avait pour la célébration, parce que j'étais content, mais et en même temps, au tout début, quand je fête mon arrivée, je prends un Coca Zéro, je crois.
Oui, c'est vrai.
Donc,
pardon.
Non, j'ai oublié. Et donc, la vraie célébration, je le fais au Coca, je crois. Mais le reste du temps, bon, c'est pour vraiment. J'avais souvent peur, j'étais souvent paranoïaque, et puis je me demandais si, quand j'avais pas assez peur, si j'étais pas trop con de pas avoir peur, parce qu'il fallait peut-être que je me protège et qu'instinctivement, avoir peur, ça protège. Et donc on alterne tout le temps dans ces zones-là, on ne sait jamais vraiment comment être, on ne sait jamais s'il faut être confiant, s'il ne faut pas l'être, et si on est trop confiant, est-ce que c'est pas. Un manque de clairvoyance, etc. Et donc on boit. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, j'aime bien le vin. On a bu tout à l'heure, il était très bon.
Non, mais pas bon pour le
vin. D'accord.
Mais quelle est votre relation, votre rapport à Artaud maintenant, aujourd'hui? Une fois que cette histoire est passée, que les choses se sont faites, que quelque chose s'est accompli, pour le coup, voilà, c'est ça.
Bah, je pense que c'est malheureusement on passe à autre chose. On s'intéresse à autre chose et puis c'est comme un roman qu'on a écrit finalement parce que ce que j'ai pas dit mais c'est que quand j'ai écrit ce livre je voulais être à la hauteur des lecteurs d'Artaud aussi et donc j'ai relu tous ses textes etc. pour trouver des citations particulières pour pouvoir le mettre dans le contexte, etc. Et donc je l'ai vraiment épluché dans tous les sens. Parce que je voulais être à la hauteur des gens qui l'aiment comme moi, quoi. Et puis une fois que ce livre était fini, comme je le relirai jamais, je pense, ce livre, j'aurais du mal à relire des trucs d'Artaud bientôt, quoi. J'aurais du mal. J'ai revu son Jeanne d'Arc. Mais pour les prochaines années, je pense autre chose. Et puis, c'est comme quand on prend trop de trucs, et puis après, on se dit, voilà, on va se sevrer, justement. Et puis après, la relation va repartir comme elle était. Mais ouais, je pense qu'il faut un peu de distance à un moment. Et puis, il y a tellement de choses à lire aussi qu'on ne se lasse pas trop, quoi.
Non, vous avez un peu lâché la main du guide, pour le coup.
Bah, je l'ai lâché, mais Dante lâche la main de Virgile avant de rencontrer Béatrice, quoi. Donc, à un moment, le guide, il faut le lâcher. C'est comme ses parents, quoi. À un moment, on lâche la main, quoi. Et puis on a une existence personnelle, et puis on essaie de la rendre au mieux. Mais à un moment, oui, le guide, il faut le lâcher. Et puis, c'est pas pour ça que parfois, on téléphone pas à ses parents, etc. Pourquoi pas relire des textes d'Artaud, bien sûr. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, passe à autre chose. Comme je l'ai dit, il y a énormément déjà d'auteurs que j'ai pas lus. Il y a énormément de gens que j'ai envie de relire, etc. Et donc, pour l'instant, dans la marge jusqu'à revenir, quoi.
Vous écrivez toujours pour la presse ?
J'ai arrêté parce que le Vice, ça m'emmerdait un peu. Leur ligne éditoriale. Non, j'écris pour la presse. Sur les livres et les films. Et voilà. Sinon, je préfère faire des petits boulots. Moi, j'ai un pote qui bosse en maçonnerie. Et je préfère lui donner des coups de main plutôt que bosser pour la presse parce que ça m'angoisse un peu. Et quand j'ai un peu d'argent, je continue à écrire mon deuxième bouquin et puis les autres trucs. Et puis les éditions sous X, etc. Donc la presse, quand j'ai envie d'écrire un sujet, oui. Mais sinon, je empiler, mettre des briques.
Et votre prochain livre, ça avance?
Ouais, bah, le confinement, je pense que ça a aidé. Hein. Donc, ça avance bien.